France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Depuis la présence d'Homo sapiens sur Terre, il existe un individu qui ne connaîtra plus jamais de dispute avec son prochain, qui évitera la joie ineffable de se quereller avec un syndic de copropriétaires retors, avec un automobiliste pitbull, un beau-frère qui vous contredit systématiquement, une moitié qui guette le moindre prétexte pour vous rappeler combien la vie était plus douce avant de vous rencontrer. Cet être a bel et bien existé, il ne se disputera plus jamais car il est mort. Car de son vivant, éviter une dispute est tout simplement impossible. Alors, à quoi bon éviter l'inévitable ? Car les conflits peuvent se révéler bénéfiques en permettant de faire avancer une relation, mais à certaines conditions, nous le verrons avec nos invités Dominique Picard, Nicole et Bernard Prieur qui nous expliqueront comment bien se disputer avec ses proches. Et vous, racontez-nous les saines disputes qui vous ont permis d'avancer et d'approfondir vos relations avec vos amis, votre partenaire ou votre famille. 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser messages et notes vocales sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Connard.
Connard, pauvre con.
Non mais je rêve, non mais maintenant mon fils sort sans cravate.
Oui alors là ta gueule Brigitte, parce que la dernière fois t'avais oublié sa ventoline. Sur un truc comme ça je te fais sauter tes week-ends.
Ok, et elle est habillée comme une pouffe et personne lui dit rien.
Mais la pouffe elle te dit merde pauvre chure.
Eh ben voilà, c'est reparti pour les insultes. Non mais t'as vu dans quel état tu me remets enfants. Je vais faire constater leur vulgarité par un huissier, c'est toi qui vas perdre ton droit de garde. Enculé va.
C'est ça, sale pute.
Pauvre con.
Mal baisé.
Ah ouais, par toi certainement, sale merde.
Mais rien à foutre, j'entends pas, t'entends
dégage,
pas.
Dégage, je veux plus te voir, dégage.
Mais oui, mais t'as raison.
Allez, va chez ta connasse. Ah,
et si on se disputait autrement que Valérie Lemercier et Denis Podalydès dans Neuilly sa mère, sorti en 2009. Bonjour Nicole Prieur.
Bonjour Ali.
Vous êtes philosophe et thérapeute, spécialiste des liens familiaux. Bonjour Bernard Prieur.
Bonjour.
Psychologue et psychanalyste formé à la thérapie familiale systémique et vous publiez ensemble chez Robert Laffont dans la collection dirigée par Fabrice Midal. Disputez-vous bien pour mieux vous entendre avec vos proches. Première question inévitable, est-ce que vous êtes souvent disputé en 55 ans de couple ? Nicole Prieur.
À mon sens, c'était inévitable et on est rentré complètement dedans. Et effectivement, on n'a pas cessé de se disputer.
Sainement, Bernard Prieur.
Sainement, bien sûr.
Sainement, et puis la semaine dernière, les choses ont repris, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se disputer. La différence qu'il y a, c'est que peut-être les disputes, au fur et à mesure de notre couple, se transforment de visage.
Mmh. Oui.
Voilà. Se transforme de visage.
Par exemple, par rapport à il y a quelques années.
Je pense que par rapport à ce que nous avons pu mettre en évidence dans notre livre, où il y a différents états dans les disputes, je pense que nous prenons davantage le temps, après la tempête première d'une dispute, de pouvoir réfléchir, de pouvoir se connecter individuellement, parce qu'on sait que de toute façon, il faut bien qu'on dépasse la situation.
Voilà. Oui, moi je dirais pas qu'on prend un peu plus de temps, au contraire, je trouve qu'elle se régule plus facilement. C'est-à-dire que dans l'expérience des disputes, des bonnes disputes, on verra la différence avec les disputes qui ne sont pas bonnes, qui sont plutôt vaines, dans l'expérience des bonnes disputes, au fur et à mesure, on apprend à apprécier l'autre, à être curieux un petit peu de l'autre et à accepter de l'écouter. Et donc, parce que lui-même accepte de nous écouter. Donc finalement, les disputes se résolvent un peu plus facilement.
Et j'imagine jamais d'insultes comme dans cet extrait de Neuilly sa mère.
Parce que là, on est plutôt, alors je dirais, je pense qu'on y reviendra, on est plutôt dans le conflit. Il y a une différence entre dispute et conflit.
On y reviendra tout à l'heure. Bonjour Dominique Picard.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Habitué de cette émission, vous êtes professeur de psychologie sociale émérite à l'Université Paris 13 et vous avez notamment publié un Que sais-je indispensable consacré au conflit relationnel avec Edmond Marc. Alors Nicole Prieur, en exergue de votre livre, une citation de Lao Tzu, « Dureté et rigidité sont compagnons de la mort, fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. »
N'est-ce pas ? C'est-à-dire que je pense que c'est cela. Les disputes aussi nous apprennent à accepter d'être un peu plus souple vis-à-vis de l'autre, avoir moins d'exigences, avoir moins d'attentes et à entendre un peu les attentes de l'autre. C'est-à-dire que ça fait intervenir quelque chose de notre souplesse, j'ai envie de dire de notre mobilité aussi, de notre mobilité relationnelle et j'ai envie de dire de notre accordage possible avec l'autre. C'est finalement un couple, des amis, ou c'est comme un orchestre. Chacun joue sa partition, chacun joue avec son instrument, mais il faut pouvoir s'accorder à l'autre.
Alors, nous sommes nombreux à ne pas aimer nous disputer, et pourtant, depuis notre plus tendre enfance, nous nous chamaillons. Qu'on le veuille ou non, la dispute, c'est le cœur de nos relations les plus intimes. On aimerait les éviter, ces disputes, mais elles s'invitent souvent, sans crier gare.
Oui, on aimerait les éviter, parce qu'on rêve tous d'une vie lisse, d'une vie sans plis finalement, mais j'ai envie de dire, elles viennent dès le carré de sable, et elles viennent dès qu'il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive derrière nous. Ça arrive.
Et vous rappelez que, dans votre livre, que les disputes sont constitutives du lien.
Elles font partie, à mon sens, et au XXIe siècle encore plus, elles font partie vraiment de la relation, c'est-à-dire qu'il y a, surtout aujourd'hui, une exigence d'affirmer ce que l'on est. Et plus on a envie d'affirmer ce que l'on est, plus l'autre en face de nous a aussi envie d'affirmer ce qu'il est. Et du coup, ça fait vraiment, j'ai envie de dire, ça met en évidence nos différends, nos oppositions. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a des disputes qui émergent et qu'il faut apprendre à vivre avec justement ces différends et ces oppositions.
Dominique Picard.
Oh oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicole Prieur. Juste, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y ait une différence importante entre dispute et conflit. Je crois que dans le langage courant, la dispute est considérée comme moins importante, moins violente, moins forte, moins profonde que le conflit, mais ce ne sont que des questions de force, que des questions de niveau. Mais les processus sont similaires. Donc, plutôt que de les opposer, je crois qu'on peut dire qu'il vaut mieux rester au niveau de la dispute, c'est-à-dire au niveau le moins fort du conflit, de façon à ce qu'il ne s'envenime pas. Mais c'est peut-être un détail.
Bernard Prieur.
Ce n'est pas du tout un détail. Je trouve que ce que vous dites est très très important. D'un autre côté, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que dans la dispute, ce n'est pas le premier niveau et ensuite le conflit. Si l'on regarde l'étymologie du mot dispute, c'est disputare, discuter, débattre. Si l'on regarde l'étymologie du mot conflit, c'est conflictus, c'est-à-dire c'est se battre. Et je pense que la différence importante dans une dispute, c'est on débat avec l'autre, surtout si l'on essaye de mettre en place un certain nombre de règles pour avoir des disputes saines. C'est se débattre avec l'autre. Par contre, en matière de conflit, on se bat avec l'autre. L'autre n'est plus un partenaire, c'est un adversaire. Et je pense que ça va transformer énormément le relationnel entre ces deux êtres.
Nicole Prieur.
Oui, ce que je peux rajouter, effectivement l'étymologie nous a aidé un petit peu à mettre en évidence un peu la différence. Je pense que les fonctions au niveau de la relation, surtout si on reste dans le couple, mais pas seulement dans le couple, les fonctions de la dispute et du conflit ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que dans la dispute, j'ai envie de dire, c'est un appel au changement. On croit encore à la relation, on croit au « nous », et on a envie que ce « nous » continue à vivre le mieux possible, et on dit « stop », essayons de mettre en place des modifications. Dans le conflit, on attaque l'autre. Donc il y a un tu contre un je et un je contre un tu. Et il y en a un qui doit gagner. On n'a plus tout à fait la même fonction.
Dominique Picard.
Oh ben, quand on définit les choses aussi clairement, il n'y a plus aucun problème.
Pas de dispute. Pas de dispute entre vous, car vous êtes au fond d'accord, sur le fond. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Aline.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles, on ne s'est encore jamais disputé.
Non.
Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Les sujets de dispute dans le couple ont-ils évolué? Comment gérer celles qui opposent les fratries? Et quel est le bon moment pour se disputer?
Bonjour Christophe André.
Bonjour
notre
Aline.
Psychiatre maison. raison, je ne me suis jamais disputé avec vous non plus, mais sait-on jamais. Quel est le menu de vos choses vues ?
Des montagnes de disputes nous séparent qu'un mot suffira à effacer. Quel est ce mot ? C'est ma question du jour.
Il y a quelque chose qui ne va pas, Riri, tu as un problème.
Non, j'ai pas de problème, arrête de m'appeler Riri, ça fait 30 ans que je te le demande.
Grand bien vous fasse.
Vous n'allez pas vous disputer, hein ?
J'ai aucune envie de me disputer.
Sur France Inter.
Comment bien se disputer avec ses proches ? C'est notre thème ce matin avec Nicole et Bernard Prieur qui publient Disputez-vous bien et avec la professeure en psychologie sociale Dominique Picard.
Tu fuis ? Tu te défiles ? Tu bats en retraite ?
Putain, Max, arrête d'irructer, hein ? C'est pas parce que tu as la voix qui porte que c'est toi qui as raison ! Moi aussi, j'ai la voix qui porte ! Moi aussi, je peux gueuler et beaucoup plus fort que toi ! Tu es là depuis une heure à m'expliquer ce qui est bien, ce qui est mal. T'as toujours les bons réflexes, les bonnes réactions, les bonnes opinions. C'est chiant ! À chaque fois que tu ouvres la bouche, on entend l'évangile. L'évangile selon Max. Tu n'es pas l'évangile. Tu dis beaucoup de conneries. Depuis que je te connais, ça fait 35 ans, je suis pas d'accord avec tout ce que tu racontes. Je fais semblant parce que j'ai pas envie de m'engueuler, hein. Mais je suis pas d'accord ! Et plus ça va, plus ça empire. Tu vieillis pas, tu t'aggraves. J'aime tout ce que tu détestes et je déteste tout ce que tu aimes. Parce que ça fait 35 ans que tu m'emmerdes, Max. Tu m'emmerdes. Tu me fais chier. Chier, putain.
Tu veux du café ?
Oui, je veux bien, oui.
Dispute entre deux amis, Daniel Auteuil et Richard Berry, dans Nos Femmes en 2015. Alors, une dispute qui se termine bien va faire évoluer la relation, Nicole Prieur. Les disputes sont des signes très forts que la relation doit évoluer. Les disputes disent « ça ne peut plus durer comme ça ».
C'est ça, c'est stop. En fait, les disputes, c'est un appel au changement. Stop, ça ne peut pas durer comme ça. C'est aussi un appel à la reconnaissance. Reconnais un petit peu ce dont j'ai besoin, reconnais-moi, valorise-moi, fais en sorte que je sente que j'existe pour toi. Et c'est aussi un appel, finalement, au respect. Essaye de respecter un peu mieux mes besoins. Et justement, par rapport à ces disputes qui ont duré 35 ans là, entre ces deux amis, justement, si on apprend à bien se disputer, au fur et à mesure, on va réguler les choses et on va arriver à cet accordage qui nous permet de mieux vivre avec l'autre et de mieux s'accorder. J'aime bien cette notion d'accorder, c'est pour ça que j'y reviens, s'accorder avec l'autre. Donc, ça va permettre de dépasser les frictions qui pourraient pourrir la vie si on ne les régule pas au fur et à mesure.
Et les disputes, Bernard Prieur, nous confrontent à l'idée que nous devons renoncer à la relation parfaite.
Oui, parce que je pense que la relation parfaite n'existe pas. Je pense qu'elle n'existe pas. Et je pense aussi que quand les individus pensent que se disputer, c'est quelque chose de difficile, pour moi, ce n'est pas la présence des disputes qui est difficile. C'est la capacité des individus à pouvoir dépasser ces disputes, à diminuer les récidives de disputes. Mais d'une certaine façon, quand il y a dispute, il y a au moins échange.
Certains ont parfois l'impression, Nicole Prieur, que la dispute s'oppose à l'amour.
Tout à fait. Et surtout à la notion d'harmonie, hein, à laquelle on tient. Et c'est vrai qu'on a tous envie d'avoir des relations amoureuses, j'allais dire, et harmonieuses avec ses proches. Mais je crois que là, il y a une erreur d'interprétation. Parce qu'on croit que l'harmonie, c'est être dans le consensus, alors que l'harmonie et l'amour, c'est savoir faire avec les différents qui nous opposent. C'est finalement savoir vivre avec nos oppositions. Parce que justement, ça permet de faire durer la relation. Parce que si on demande à l'autre de s'aligner et de s'affilier complètement à ce que nous sommes, et si on lui demande de rentrer complètement dans ce qu'on a envie qu'il soit, il n'existera plus.
Dominique Picard.
Oui, je n'aime pas revenir sur tout ce que vient de dire Nicole, qui est très juste, mais je voudrais ajouter que la dispute permet aussi de revenir au réel et de dépasser le fantasme, de dépasser l'idéologie. On a en général une vision mythique que les gens qui nous sont proches, effectivement, les amis, les amours, sont des gens qui nous ressemblent. Et si jamais c'est toujours dans le fantasme, on se dit que si jamais c'est pas vrai, eh bien c'est un monde entier qui s'écroule. Or, cette espèce d'adaptation l'un à l'autre, dont parlait Bernard en particulier, oblige à passer par-dessus une vision mythique, idéologique, donc loin de la réalité. Et la dispute permet justement un ajustement avec la réalité et permet un ancrage de la relation.
Alors Bernard et Nicole Prieur, quelle est la structure commune de la plupart des disputes? C'est une danse à quatre temps. Première séquence, c'est le temps d'incubation. Deuxième séquence, le moment où elle éclate. Troisième séquence, son déroulement. Et la dernière séquence, c'est le dénouement. Hein ? Revenons sur cette danse à quatre temps.
Alors, moi j'aime beaucoup aussi ce qu'a dit Dominique Picard hein, sur ce retour au réel. Et je pense que c'est vrai que les disputes nous font plonger complètement dans le réel. Et ce que je retiens aussi de ce qu'a dit Dominique et Bernard, c'est que la dispute permet d'aller quand même au-delà du réel qui s'exprime immédiatement dans la dispute. Alors, justement, quatre moments, quatre danses. Le premier, c'est l'incubation. Si, dans la journée, j'ai passé une sale journée, parce que je me suis disputée ou je ne me suis pas entendue avec mon collègue, etc., que ma mère m'appelle parce qu'elle a besoin de moi, alors que mon fils m'appelle parce qu'il a besoin que je garde les petits-enfants. Donc, si j'ai un ensemble, que ma copine m'appelle pour de décommander, etc., si j'ai un ensemble de frustration dans la journée, de contrariété, quand je vais rentrer chez moi, et donc c'est ça l'incubation. Quand je vais rentrer chez moi, si je vois un vase mal rangé ou la vaisselle du midi pas rangée, alors que plusieurs jours de suite, je ne fais pas attention, ce jour-là, je vais hurler et je vais dire « ça suffit, ça ne peut plus continuer, etc. » Et si mon mari ou mon fils est là devant moi, c'est sur lui que mon cri de colère va tomber et on va comprendre après qu'il faut justement décoder ça. Donc ça, c'est le moment où ça explose. Quand ça explose, on ne sait pas ce qui se passe en nous, mais ça ne va plus. On a un brouhaha émotionnel et ça ne va plus. Ensuite, pour justement amener de la dispute à la discussion, je pense que le temps important, c'est un temps un petit peu... Alors chacun le vit ce dénouement, ce déroulement un peu différemment. On peut se faire la tête, on se fait des grimaces. Mais il y a un temps où ce qui est important, c'est de revenir un petit peu à soi, sur soi, et de dire, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé en moi ? Dénouer un petit peu ce brouhaha. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont agacée. Est-ce que c'était juste que ça tombe sur mon mari, sur mon fils, etc. Voilà. Donc c'est un temps un peu de maturation finalement, de retour, j'ai envie de dire, de retour au calme, presque de retour au silence, où on pose les choses et ensuite on peut dénouer. On peut essayer de dénouer.
Question de Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Oui, Nicole Prieur, pour rester sur cette question du timing, le fameux « il faut qu'on se parle ».
Oui.
Vous preniez l'exemple de cette journée qui a quand même très mal démarré, vous rentrez, les chaussettes traînent, paf, ça tombe sur Bernard Prieur, je suppose que vous ne laissez jamais traîner vos chaussettes, mettons.
Vous ne vous trompez pas, ça tombe toujours sur moi. Voilà.
Mais alors pourquoi évidemment. Ce Bernard prend-il votre courroux en pleine figure, alors que finalement il ne lui est peut-être pas forcément dédié? Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'anticipation dans cette dispute? Vous avez ruminé toute seule dans la journée, qu'elle se soit bien ou moyennement passée, et c'est le bon moment, vous arrivez le soir, et Bernard se prend la dispute en pleine figure. Donc ça, c'est l'avant, mais il y a aussi l'après.
Oui.
Il faut laisser retomber la pression, il faut voir aussi comment les émotions vont sortir, comment on peut les gérer. Il y a d'ailleurs un psychologue américain qui dit qu'il faut laisser passer 24 heures avant qu'une dispute soit finalement utile et qu'on puisse en tirer le meilleur, si tant est qu'on parvienne à se rabibocher et à ranger ses fameuses chaussettes.
Oui. Oui, alors effectivement, 24 heures, quelquefois c'est court, ça dépend. Alors deux choses peut-être pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on a l'habitude de bien se disputer, plus on mettra un peu de l'humour, et plus quand on verra des chaussettes traîner, on pourra se dire, eh ben voilà, c'est encore ça, mais on aura régulé un certain nombre de choses. C'est-à-dire que dans ce temps d'incubation, dans ce temps qu'on a appelé le déroulement, à mon sens qui peut durer plus souvent plus que 24 heures, c'est important d'aller chercher les enjeux sous-jacents, implicites, de ce qui s'est passé. Si je trouve qu'il y a un désordre et que ça me gêne, l'ordre, la place, ça a à voir avec notre sens du territoire. Et ça a à voir avec notre sens, finalement, notre sentiment de sécurité intérieure. Quand je vois des chaussettes qui sont mal rangées, je peux être blessée dans un sentiment, ou fragilisé dans mon sentiment de sécurité intérieure, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me déborde, qui fait intrusion dans mon propre espace. Et du coup, ce temps de maturation me permet un petit peu de se dire, mais finalement, c'est pas les chaussettes qui me gênent, et c'est pas mon mari qui me gêne ce jour-là, je l'ai supporté pendant 40 ans, je peux encore continuer sur les problèmes de fond, on est d'accord. Sinon, on ne serait pas restés ensemble pendant 40 ans, ou 50 ans même.
55,
si on vient au réel. Donc, c'est un temps où vraiment on fait tomber et, comme disait Dominique, finalement, on rentre encore plus dans notre propre réel. Et on analyse un petit peu ce qui se passe, et ça peut être, c'est pas une analyse, une introspection absolue, mais c'est un retour sur le sens profond de ce que le comportement que j'attribue à l'autre m'a fait émerger comme colère.
La parole est à la défense.
Oui. Je crois que ce deuxième temps, ce n'est pas de l'introspection, c'est de la connexion avec soi-même. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une dispute, on est complètement face à l'autre et on se tourne vers l'autre et on s'oublie complètement. Et je pense que la deuxième étape est une étape où effectivement il faut se connecter, il faut essayer un minimum de pouvoir penser à soi, hein, sans forcément procrastiner, mais de se poser la question à quoi ça sert ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de mettre en route. Ça, c'est un premier point. Maintenant, un deuxième point, quand vous présentiez de façon humoristique la dispute, et quand quelqu'un dit « il faut qu'on se parle », oui. La question, c'est qu'à ce moment-là, ça dépend... quand on dit « il faut qu'on se parle », cela dépend aussi de quoi on parle. Parce que je pense que dans la dispute, on va avoir tout un langage non-verbal qui n'a pas besoin de paroles. Et si effectivement je commence à lever les mains, si je commence à me lever, à gesticuler, et que je dis « il faut qu'on se parle », eh bien c'est contradictoire. Parce qu'effectivement, je me présente de telle façon que je n'ai pas envie de parler, de discuter avec l'autre.
Christophe André.
Oui, en vous écoutant, je me dis qu'il y a quand même trois mots-clés dans ces histoires de dispute. C'est le prétexte, la raison et le besoin. C'est très clair dans tout ce que vous... D'ailleurs, dans votre livre aussi, vous le montrez bien. Le prétexte de la dispute, les chaussettes, on sait tous que c'est anodin. En tout cas, ça paraît anodin. Que du prétexte, il faut aller vers la raison profonde de la dispute. Effectivement, quelque chose de plus vaste. Le prétexte n'est que l'allumette qui met le feu au gros tas de raisons ou à la raison. Et pour la phase de résolution de la dispute, c'est pas marteler le prétexte ou la raison de la dispute, c'est quels sont mes besoins, en quoi j'ai été blessé, en quoi je suis vulnérable. Et c'est là aussi que ce que disait Bernard Prieur est juste. C'est une histoire d'émotion, beaucoup, évidemment, les disputes. Et d'ailleurs, la résolution des disputes, moi qui vous écoute là, depuis le début de l'émission, ressemble beaucoup au travail qu'on fait avec les émotions. Les émotions douloureuses, explosives, que l'on souhaite réguler, c'est toujours le même scénario. C'est-à-dire, plus on prend conscience tôt qu'elles sont en train d'apparaître, plus on est capable de les nommer. Se dire, oh là là, je suis en colère, la foudre va tomber, je vais en prendre à quelqu'un. Et plus on est capable ensuite de les réguler. En tout cas, mieux ça va se passer, ça a des chances de se passer.
Dominique Picard.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Christophe André pour prolonger ce qu'il expliquait sur le besoin. C'est-à-dire que le besoin, il faut aussi savoir exprimer ce dont on a besoin et parler en termes de « je » au lieu en termes de « tu ». Alors, tu me fais chier, effectivement c'est violent, mais tu imposes toujours tes idées, tu ne fais pas attention aux miennes. Eh bien non, dire, tu sais, j'ai l'impression de ne pas exister ici et j'ai l'impression que je me plie à tes désirs au lieu d'écouter les miens. Je crois que c'est important de l'exprimer. Je pense que Christophe André sera d'accord avec moi là-dessus, et Nicole et Bernard Prieur peut-être aussi.
Nicole Prieur.
Tout à fait, Dominique. Effectivement, et c'est un petit peu ce que nous recommandons, je n'aime pas la notion de recommander, mais en même temps, c'est une piste, en tous les cas, de réflexion qu'on propose aux lecteurs. C'est, on dit, le dénouement et justement la discussion qui est saine, qui peut venir après la dispute, on l'a présenté en trois temps. On doit bien aimer danser, hein, parce que là c'est trois temps. Trois temps, le premier, c'est effectivement, j'explique. j'explique à l'autre, finalement, une fois que l'émotion est tombée, que j'ai pu un petit peu avoir ce temps d'intimité avec moi-même, ce temps de silence aussi avec moi-même, j'explique à l'autre, finalement, ce qui s'est passé. Hein. Voilà, effectivement, comme dit Dominique, je parle. J'explique. Et le deuxième temps, c'est je comprends. Je me mets là dans une position où j'invite l'autre à expliquer à son tour et finalement, je suis dans une forme de curiosité. Hein, finalement, pourquoi il a fait la tête alors que je ne respectais pas si fort que ça, etc. Et du coup, j'essaye de le comprendre et là, j'entends le tu qui est en face de moi. Et pour, comme on disait tout à l'heure, l'important, c'est de renforcer un petit peu le nous. Et le troisième temps, c'est une forme de co-construction. Ok, tes chaussettes me gênent le soir si elles sont là. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Comment on organise? Est-ce que tu peux ranger tes chaussettes un jour sur deux ou une semaine sur deux? Et là, on arrive à la notion de compromis, hein, qui fait que finalement, moi, je vais peut-être baisser un petit peu l'exigence de mes besoins pour commencer à prendre en compte ceux de l'autre. Parce que les termes de besoin sont effectivement fondamentaux dans nos relations aujourd'hui, mais finalement, la difficulté, c'est comment faire coexister des besoins quelque part différents. Et le compromis, on n'aime pas ce mot-là au XXIe siècle, je trouve. Hein. Et effectivement, c'est un moment où on peut mettre en place des modifications de comportement qui vont harmoniser tranquillement la relation.
Alors Nicole Prieur, Bernard Prieur, selon vos observations et vos analyses, il existerait quatre types de disputes. Les disputes larvées, celles qui couvent en silence et brûlent à petit feu. Les disputes radicales qui aboutissent à des ruptures sèches et nettes sans explication. Les disputes vaines qui explosent, font entendre le malaise mais ne donnent pas lieu à une explication utile. Et puis les disputes saines qui entretiennent et préservent la bonne santé du lien. Nicole Prieur, Bernard Prieur.
Oui, les disputes vaines, les disputes larvées, ce sont les disputes les plus difficiles à maîtriser. Parce que, d'une manière générale, quand les couples se présentent dans les consultations, en réalité, très souvent, ils disent, quand il y a une dispute, il vaut mieux se taire. Mmh. Il vaut mieux se taire, il vaut mieux mettre du silence en place. Alors qu'en réalité, je pense précisément que le fait de se taire, c'est quelque part de mettre la poussière sous le tapis.
Tiens, et Monique nous dit par exemple, et que faire quand la dispute ou le conflit ne sont pas verbalisés, lorsque le conflit existe, mais qu'il n'y a aucun dialogue, car pas de communication. Qu'est-ce que vous recommandez à Monique en cas de dispute, de conflit larvé? Qu'est-ce que vous lui conseillez?
Je pense que il faut essayer peut-être par rapport à ce que l'on entendait tout à l'heure, de pouvoir s'exprimer de façon à inviter l'autre à pouvoir s'exprimer. Et aussi de montrer que finalement, le silence ne règle pas tout. Ça, c'est une chose très très importante, d'une part. D'autre part aussi, je pense que par rapport aux disputes larvées, il faut faire attention. À la fois, on se tait, mais on peut aussi exprimer des évaluations d'un point de vue non-verbal. Oui. Et ça, c'est aussi très, très difficile. C'est-à-dire que quand nous avons entendu tout à l'heure les sketchs que vous nous avez présentés, la plupart de ces sketchs montrent que ce sont des gens qui s'engueulent, c'est-à-dire qui s'évaluent. Dès que nous commençons à se sentir évalués, on ne peut plus discuter.
Alors après, il y a les disputes radicales. Hein. Alors là... Oui.
Et les disputes radicales, alors c'est vrai, j'étais en train de réfléchir, je les ai beaucoup observées entre amis. Souvent, on est très proches des uns des autres, et tout d'un coup, il y en a un ou il y en a une qui ne donne plus de nouvelles, qui ne répond plus à nos appels. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Ça, j'ai envie de dire, et c'est très douloureux.
Parce qu'on a fait beaucoup d'émissions sur l'amitié dans Grand Main Vous Fasse, et il y a un motif qui revient souvent, ce sont ces ruptures amicales sans explication.
Exactement. Et on n'imagine pas, effectivement, moi je sais que dans les consultations, beaucoup de personnes me parlaient de cette douleur finalement, de ne pas comprendre pourquoi quelque chose... Voilà. Mais ce que j'ai constaté par contre de plus en plus souvent, ce sont des ruptures aussi radicales entre parents et grands-parents. Et ça, je les ai vus venir en nombre croissant. Et ça, alors c'est douloureux, aussi bien pour les grands-parents, qui sont quelquefois interdits de petits-enfants, qui n'ont plus du tout de nouvelles et qui ne comprennent pas, et qui se posent mille questions. Alors, bonjour la culpabilité, ils se culpabilisent de tout. Et même pour les parents, les jeunes parents donc, qui refusent de faire garder leurs petits-enfants, ou même de connaître leurs petits-enfants et les grands-parents, parce que finalement, c'est toujours une rupture relationnelle avec des proches, c'est toujours douloureux, et il y a toujours un prix psychique finalement.
Et puis il y a ces disputes vaines, hein, ça explose, on fait entendre le malaise, mais ça ne donne pas lieu à une explication utile.
Alors il faut dire que ce sont les plus nombreuses. Ouais. On ne va pas s'arrêter à toutes les disputes, donc il y a beaucoup de disputes vaines, et ce qui est important, c'est de transposer les disputes vaines en disputes saines. Mais il y aura peut-être 10 disputes vaines qui explosent et puis qui se résolvent comme elles peuvent, ça peut être sur l'oreiller ou n'importe où, effectivement, pour aboutir à une dispute saine.
On reviendra tout à l'heure sur ces disputes saines, il est 10h41, il est l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Allô? Encore ? Oh non, mais c'est bon, on va pas revenir encore une fois sur cette histoire. Mais non, non, je m'énerve pas, je t'explique. Comment ça, toujours pareil ? C'est toi, toujours pareil. Non, 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 mais, non, allez, c'est bon. Le dossier est clos, j'ai plus envie d'en parler, ni de me disputer. Non, 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 je te préviens, je raccroche, avant de m'énerver pour de bon. Voilà. Et je rigole, mais je Je déteste ça, les disputes, ça me stresse trop. Je suis très très mauvais en dispute. Ma définition de la dispute est la suivante. Friction relationnelle entre humains qui s'aiment bien. Et oui, la clé de la dispute, c'est l'amour, l'affection, l'amitié. On ne se dispute que s'il y a un vrai lien et une histoire heureuse. Sinon, ben, on ne se dispute pas, il n'y a pas d'enjeu, ça ne vaut pas la peine. On s'insulte, on se méprise, et puis on passe son chemin. Il y a beaucoup de théories autour des disputes, notamment dans le couple. Comment les éviter, comment en sortir, comment les transformer en discussion, en dialogue. Eh oui, les mots ont un sens. Dans la dispute, on n'écoute plus son interlocuteur, on veut vider son sac et mettre le nez de l'autre dans nos souffrances ou dans ses torts. Et on est prêt à faire du mal. Dans la discussion, on ne veut pas faire du mal, mais on veut quand même avoir raison. On écoute un peu l'autre, mais on souhaite surtout imposer son point de vue. Dans le dialogue, c'est l'idéal, on écoute vraiment parce qu'on voudrait arriver à un consensus et un compromis. La dispute, c'est un conflit qui dérape. La discussion, c'est un bras de fer. Mais dans les règles, le dialogue, c'est une construction commune. Beaucoup des théoriciens de la dispute rappellent volontiers deux points importants. D'abord, il est normal de se disputer de temps en temps. Le silence et le non-dit sont encore pires en cas de conflit. Ensuite, c'est que l'après-dispute est le temps le plus sensible et le plus fécond. C'est ce que rappelle Alfred de Musset quand il écrit « À quoi sert de se quereller quand le raccommodement est impossible ? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. » Et oui, faire la paix et se retrouver.
« Je reviens te chercher. » Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher.
S'aimer, se disputer, se retrouver, se réconcilier, c'est beau. Mais quand même, il y a une question. Est-ce qu'il y a des disputes sans solution, sans réconciliation possible ? Je crois que oui. Je crois qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler avec les gens qu'on aime parce qu'on sait que le conflit viendra et qu'il ne servira à rien. Une de mes filles m'avait dit ainsi un jour « Papa, je t'aime beaucoup alors ? Il y a des sujets dont je ne veux pas que nous parlions ensemble pour ne pas nous fâcher. » Elle avait raison, d'autant que les sujets en question ne concernaient pas notre relation, mais des débats politiques ou sociologiques. C'est l'amour, encore et toujours, l'amour qui fait qu'on en arrive à se disputer, l'amour qui fait qu'on voit que c'est absurde, l'amour qui pousse à éviter de se disputer, l'amour qui pousse à se réconcilier. George Sand décrit ça dans son « Histoire de ma vie ». Dans toute amitié, il y a des liens plus forts que nos colères d'un jour. Nous croyons détester des gens que nous aimons quand même. Des montagnes de disputes nous séparent qu'un mot suffira à effacer. J'adore. Nous croyons détester des gens que nous aimons quand même. Et oui, qui va gagner, détestation ou affection ? Et j'adore aussi. Des montagnes de disputes nous séparent qu'un mot suffira à effacer. Un mot ? Quel est donc ce mot ? Je vous laisse deviner. Je ne vais quand même pas faire tout le boulot à votre place.
Réaction, Dominique Picard.
Oh, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique tout ce qui est dit là. Vous me donnez une demi-heure d'émission, je vous donnerai un
temps. Hélas non, Dominique Picard. Nicole Prieur. Oui,
alors moi, en vous écoutant, effectivement, c'est magnifique. Et j'avais l'image, c'est un sujet aussi auquel on s'est beaucoup intéressé, aux disputes au moment des héritages. Ah là. Et là, vraiment, ce qui permet de faire sortir, j'ai envie de dire, de la dispute, on va s'étriper, pour arracher un objet, effectivement, entre frères et sœurs, on va s'étriper. Et ce qui permet de sortir, justement, de cette dispute qui arrive à des conflits ou à des ruptures, c'est quand on met, pas forcément l'amour, mais la valeur, quand on mesure la valeur qu'a la relation. Si j'estime qu'effectivement... si j'estime effectivement que le lien est plus important avec mes frères et sœurs que le bien, et là je reprends une expression que vous aviez eue, Ali, dans une émission qu'on avait faite sur les héritages, où vous aviez dit, et je reprends ça souvent, finalement, il faut choisir le lien plutôt que les biens. Et je pense que c'est vraiment un choix au moment des héritages. Si la relation à mes frères et sœurs est plus importante que la cuillère en argent ou je ne sais quoi, à ce moment-là, je serai prête à faire un compromis, à ne pas m'étriper pour un vase, même pour quelque chose de plus important. Je crois qu'effectivement, il y a l'amour et il y a la conscience de la place que j'ai envie de donner à la relation qui est en jeu dans cette dispute.
France Inter.
Je vais prendre des vacances, toute seule, sans toi, qui me fait chier, chier et merde.
J'en prie, Gigi, calme-toi. Hein.
Grand bien vous fasse.
En ce moment, tu es fatiguée. Alors tu vas monter, tu vas prendre deux cachets, tu vas te reposer, et puis on discutera tout ça quand tu seras calmée, plus hystérique, d'accord ?
D'accord, dans 15 jours, si je reviens.
Gigi, merde !
Ali Rébéi.
Comment bien se disputer avec ses proches ? C'est notre thème ce matin avec Nicole et Bernard Prieur, et avec Dominique Picard, et une question de Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Oui, Nicole Prieur, vous parliez juste avant la pause de la question de l'héritage, donc des parents décédés. Là, on va s'intéresser aux parents bien vivants et à la fratrie. Évidemment, la rivalité qu'on imagine inévitable entre l'aîné et le cadet. Ouais, j'étais là avant toi, j'ai profité de papa et maman 2 ans de plus, t'étais pas encore là. Donc, on est vraiment dans la problématique de la place. L'aîné veut la conserver et le cadet veut la trouver.
Et oui, c'est ça. Oui, oui. Et c'est vrai que la fratrie, elle se constitue d'abord avec ce sentiment quelque part de rivalité. Alors ça peut s'exprimer plus ou moins gentiment ou plus ou moins violemment, mais tous les grands frères ou toutes les grandes sœurs ont envie de renvoyer le jeune bébé qui vient d'arriver à la clinique ou dans la poubelle. Moi, dans mon cabinet, il y avait beaucoup de poupées qui représentaient le petit cadet ou la petite cadette qui étaient jetées à la poubelle. Donc effectivement, l'autre d'emblée, et ce qui est quand même une expérience de l'altérité, hein, c'est comment faire avec un autre qui d'emblée est un gêneur. L'aîné perd, il a une expérience de perte. Il perd l'exclusivité de sa place, l'exclusivité du regard parental, et on sait que le regard parental est un étayage essentiel. Il y a ce regard qui se détourne vers le cadet, vers le bébé qui n'a aucun intérêt. Donc on lui avait dit, tu joueras avec le petit, mais enfin, on ne peut pas jouer, il faut le protéger, il faut être encore plus sage, il faut être encore plus grand, alors qu'on a envie de régresser. Donc, l'autre est un gêneur. Et pour le cadet, il y a une autre expérience qui n'est pas celle de la perte, mais une expérience de manque. Il me manque, parce qu'effectivement l'aîné lui dit « tu n'as pas connu ceci, moi j'ai le droit de lire avant toi, ou plus tard que toi, etc. » Il lui manque, les petits-enfants, quand je le recevais en consultation, me faisaient une ligne du temps, et il me dit « tu sais, mon frère est né là, moi je suis né 3 ans après, il me manque 3 ans. » Donc il y a une expérience de perte et de manque, et du coup ça va faire des règlements de compte, qui peuvent se régler au moment des héritages.
Christophe André.
Oui, oui. Et puis c'est vrai que dans les conflits, les disputes entre frères et sœurs, il y a le problème que ce sont des disputes avec un tiers, le parent, le père ou la mère. Les enfants, très rapidement, font appel aux pompiers, aux juges de paix, aux policiers. Il y a une façon d'exercer sa fonction de parent. Et la mission de parent, elle est compliquée, là, parce qu'il faut à la fois calmer un peu le conflit. Hein. Souvent, ils en sont venus aux mains, donc il faut séparer, calmer les esprits, chercher à comprendre. Et là, on a deux options. Soit on essaie de rendre la justice à partir des témoignages réciproques, soit on essaie de transmettre... une façon d'apprendre à régler ces conflits. Peut-être aussi que dans la prévention très précoce des disputes, il y a une mission parentale qui serait d'essayer de montrer à nos enfants qu'une dispute, c'est normal, mais ça peut se régler de façon plus intelligente que les coups ou l'appel aux parents.
Bernard Prieur.
Oui, et puis surtout, il faut que les parents soient attentifs à ce qu'ils font, parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais on peut, sans... implicitement, où on peut, je ne dirais pas alimenter les disputes, mais d'une certaine façon, on peut peut-être les raviver. Hein. Par exemple, quand j'ai des parents en consultation qui viennent à propos de problèmes d'enfants, etc., et qui me disent « Mais vous savez, monsieur, je les aime tous les trois de la même façon. » Alors là, je trouve que c'est pour moi, c'est une expression qui peut raviver les disputes. Parce que, justement, on n'aime pas les trois enfants de la même façon. Cette façon que les parents peuvent avoir, de mettre en place de l'égalité dans les sentiments, n'est pas forcément une bonne chose. Mais par contre, effectivement, respecter ou les aider à respecter la singularité de chacun des enfants... Je peux aimer le premier pour telle raison, je peux aimer le deuxième pour telle autre raison qui est différente du premier, et le troisième, eh bien, j'ai envie de dire, cela peut introduire des différences que je respecte et que je peux faire transmettre à mes enfants.
Alors, dans quel cas ne vaut-il mieux pas se disputer ? Vous écrivez avec justesse dans votre livre que l'intelligence de la dispute, c'est l'intelligence des contextes.
Oui. Justement, par exemple, si on est dans un repas de famille et qu'on sait que le frère, la cousine n'ont pas les mêmes positions politiques que nous, c'est souvent quand même là-dessus, ou des questions de valeur aussi, du respect de l'autre, etc., ou de définition, de rapport au monde finalement, et même de rapport à la vie. Si on sait qu'il y a vraiment des oppositions radicales et des antagonismes très forts, si on a envie de rester amis avec notre cousin et de respecter nos parents parce que voilà, ils vieillissent, si on n'a pas envie de leur faire de la peine, à ce moment-là on regarde les choses avec un peu de recul, avec un peu d'humour. Ah tiens, ça fait 3 heures qu'il n'a pas encore dit son expression qui nous insupporte, et voilà, on se calme à ce moment-là pour préserver le loin.
Dominique Picard, quels sont vos conseils, vos règles d'or pour une saine dispute constructive ?
Les règles d'or, c'est l'essentiel, c'est de pouvoir sortir d'une dispute sans amertume et avec un sentiment d'apaisement. Alors, pour ça, il faut avoir l'impression d'être entendu. Donc, bien comprendre que dans une dispute, il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot, mais qu'il faut, c'est pas un combat, c'est pas un rapport de force. Ce qu'il faut, c'est être capable de co-construire le lien. Je reprends l'expression de Bernard tout à l'heure. Donc, une dispute doit se passer dans un climat de basse tension. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire, il faut pas hausser le ton, il faut laisser parler l'autre, il faut pas s'exciter. Comme ça, on peut avoir le sentiment d'être écouté. Et puis, il y a un travail intérieur à faire. C'est-à-dire qu'on veut convaincre l'autre. OK. On veut l'écouter. OK. Mais il faut aussi faire quelque chose qui est très difficile à faire. C'est se dire qu'on peut, nous, changer d'avis.
Dominique,
il ne s'agit pas simplement de faire des compromis et de tolérer, mais de pouvoir aussi changer d'avis. Excusez-moi, j'ai été un peu long.
Non, pas du tout. On arrive au terme de cette émission. Nicole Prieur, votre règle d'or, après il faudra lire votre livre, mais la règle d'or, peut-être qui complétera celle de Dominique Picard.
Oui, c'est peut-être de considérer vraiment les disputes, en tous les cas les disputes saines, comme un nouveau départ. Une fois qu'elles sont résolues, et de se dire, mais finalement, si on arrive à mettre les choses au clair, co-construire en fait tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, c'est vrai qu'on c'est un nouveau départ. Ça peut être une réactualisation, une rénovation, une renaissance un petit peu du lien. Et c'est vrai que nous, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a vécu.
Oui, et moi, je dirais aussi que peut-être une règle qui peut nous permettre de bien vivre les disputes, c'est quand je lâche un argument, quand je lâche quelque chose et que j'ai le sentiment de perdre, il faut que je me dise, perdre, c'est aussi gagner.
Et rappelons que les disputes saines entretiennent et préservent la bonne santé du lien.
Oui, tout à fait. Elles font avancer les choses et elles font qu'on peut finalement se respecter mutuellement. Et c'est ça qui est important dans une relation, à côté de l'amour, bien sûr.
Merci beaucoup, Nicole Prieur, Bernard Prieur. Disputez-vous bien, c'est publié chez Robert Laffont dans la collection dirigée par Fabrice Midal. Merci beaucoup, Dominique Picard. Votre Que sais-je consacré aux conflits relationnels est toujours d'actualité. Merci au John Steele et ma pile du mardi.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.